Et les voici de retour. Une fois par mois, les libraires montalbanais se réunissent dans les studios de CFM à Montauban pour toute l'actualité de l'ALMA. Il y a autour de cette table aujourd'hui Jacques Griffaud pour le Scribe. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
Bonne année, on peut encore le dire.
Eh bien, bonne année et beaucoup de coups de cœur à tout le monde.
Il y a Daniel Deloche. Bonjour Daniel Deloche et meilleurs vœux.
Meilleurs vœux à vous et meilleurs vœux de lecture à tous nos auditeurs.
Maurice Beau est présent. Santé et bonheur, Maurice.
Ben oui, continuons à faire une place au livre.
Et Philippe Bernadou, également de la librairie de Loche, présent. Bonjour.
Bonjour, bonne année à vous et aux auditeurs de CFM.
Alors, comme chaque émission, on va découvrir aujourd'hui un auteur, vos coups de cœur. Nous aurons aussi droit à une lecture. La lecture, c'est vous, Philippe Bernadou, qui nous la proposerez. Ce sera
Le goût des abricots secs de Gilles Pérez aux éditions du Rouergue.
Voilà, l'auteur que nous présentons aujourd'hui, c'est
Jean Malrieux, et poète montalbanais.
Ouais. Et puis après, y aura vos coups de cœur et bien sûr vos actualités. On va commencer tout de suite justement par Jean Malrieux.
Oui, Jean Malrieux est toujours dans l'actualité, mais d'autant plus que les éditions des Vanneaux viennent de sortir une monographie très bien faite, signée par Pierre Adenau, qui est un ami de longue date, qui était un ami de Jean Malrieux. Présenté, ça rappellera un peu la collection Poète d'aujourd'hui chez Segers, avec une partie biographique et une partie anthologie de textes. Il faut signaler que les textes présents dans cette anthologie sont inédits tous, c'est-à-dire ne font pas partie de l'œuvre complète qui est parue au Cherche Midi il y a 3 ans. Jean Malrieux, donc, c'est un Montalbanais, il est né à Bourré en 1915. Il est mort à Montauban aussi, malheureusement, assez jeune, en 1976, à la suite d'une piqûre d'insectes mal soignée. Et entre les deux, il a été un homme de la fidélité. Il a été fidèle en particulier à sa femme, c'est le... un homme d'un seul amour, ça a été Lilette toute sa vie. Il a été fidèle à ses amis à Montauban, à Georges Herman en particulier, qui était son aîné et qui l'a accompagné toute sa vie, et à ses amis à Marseille, puisque par son métier, il va être instituteur, il va être nommé à Marseille, et à Marseille, ce sera la grande aventure de la revue des Cahiers du Sud, et du groupe qui tournera autour, en particulier avec Gérald Neveu. Une fidélité qui fait que, bien que reconnu par Aragon, par Elsa Triolet, par Cocteau à Paris, il n'a jamais voulu céder aux sirènes parisiennes. Il est toujours resté auprès de ses amis et, je crois, auprès des enfants dont il avait la charge en tant qu'instituteur. C'est à signaler. Et en dehors de ça, donc, c'est un authentique poète. Il a fait de la prose, il a fait des romans un peu autobiographiques. Hein. Mais la majorité de son œuvre, c'est une poésie qui est sans concession. Donc je vais donner un exemple qui peut être un art poétique. C'est un texte très bref qui s'appelle « Conseil de l'ordre » dans un recueil dont le titre s'appelle « Le plus pauvre héritier », qui est une belle définition de Malrieux aussi. « Ce que tu crois avoir à dire, tais-le. Déguise, habille, mens. La continuité est à ce prix. Tu as un secret dans la bouche. » Il est plus grand que ta bouche. Détruiras-tu l'illusion ? Le supplice la prolonge. Je mens avec toute ma science de l'espoir. Alors l'amour devient possible. Depuis toujours, j'ai commencé la lutte avec la fin du monde.
Voilà, poète montalbanais Jean Malrieux.
Voilà.
Les coups de cœur, on commence par vous, Jacques Griffaud ?
Eh bien, volontiers.
Sur la série noire.
Coup de cœur sur la série noire. Oui, la série noire, depuis 2 ans, a changé un peu de look, de format. Alors que c'était avant du semi-poche, on pourrait dire. Maintenant, c'est du grand format, broché, etc. Et je dois dire qu'on a eu, avec ce nouveau format, de très belles surprises. Mmh. Alors, en particulier, un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est d'un Irlandais, qui s'appelle « Le martyr des Magdalènes ». Alors, les Magdalènes, il faut savoir qu'il y a eu, dans les années 60... et non pas en plein milieu du 19e siècle, comme on pourrait le croire, mais dans les années 60, il y avait un asile qui s'appelle l'asile des Magdalènes, en Irlande, dans lequel étaient enfermés, pour y expier des crimes tels que être belle, ou simple d'esprit, ou victime d'un viol, des jeunes femmes. Et elles étaient enfermées là, à la demande de leur famille, ou des autorités religieuses. Elles vivaient dans des conditions épouvantables, Elles y lavaient leurs péchés en travaillant comme blanchisseuses 365 jours par mois sous la surveillance de sœurs qui étaient sous la surveillance de sœurs qui étaient d'une cruauté incroyable. Il y a eu d'ailleurs un film qui a été fait, qui est sorti en 2003, un film de Peter Millen. Alors, ça, c'est la toile de fond. Jack Taylor, lui, c'est un ex-flic et il se remet toujours péniblement de son ancienne enquête en buvant de la Guinness tiède dans son pub préféré. Et un jour, il y a un type qui vient le voir, qui s'appelle Bill Cassel, qui est un individu peu recommandable, envers qui il a une dette. Il a une dette parce que ce Bill Cassel a éliminé un tueur à la demande de Jack. Et ce Bill lui dit, tiens, allez, tu peux effacer ton ardoise d'un seul coup. Il faut retrouver une certaine Rita Monroe. Cette Rita Monroe, elle faisait partie du personnel laïque de la blanchisserie des Magdelaines et elle aurait aidé la mère de ce Bill à fuir cet enfer. Donc il veut la retrouver pour la remercier, etc. Bon, parfait. Dans le même temps, notre Jacques et notre Jack Taylor, cet ex-flic, est chargé par un Irlandais qui a une trentaine d'années, alors l'Irlandais qui est friqué, bien fringué, qui est représentatif de cette première génération d'Irlandais qui a grandi sans le spectre du chômage et de l'immigration, vous voyez, qui peut faire sa vie en Irlande, et lui vient lui demander d'enquêter sur sa belle-mère. Il soupçonne de l'avoir tué son père, qui a été incinéré sans autopsie. Alors ça, c'est une enquête qui excite beaucoup plus Jacques Taylor. Il s'est prêt à consacrer tout son temps, mais de temps en temps, il y a un gros dur qui vient lui rappeler qu'il a une dette envers Bill Cassel et qu'il faut absolument qu'il s'intéresse aussi à cela. Alors voilà, Jacques Taylor va être amené à mener de front ces deux enquêtes en se battant contre un de ses vieux démons, qui est celui de l'alcool. Alors ça fait un polar qui est très vif, qui est très poignant. Il y a des phrases que je trouve absolument formidables. Il y en a une en particulier qui est la suivante. Les alcooliques ont breveté le concept consistant à changer la moindre perspective de victoire en défaite. Voilà, donc lisez Ken Bruen.
Le martyr
Le martyr des Magdelaines dans la série noire.
Autre coup de cœur, on tourne, on reviendra peut-être à Jacques Griffaut après. Ah, c'était pour pouvoir finir le chewing-gum, Daniel Deloche. Allez, on le colle sous la table.
Mais non, c'était pour m'éclaircir la voix, car je suis un peu enrhumée. Donc, moi, je vais continuer finalement avec un polar, moi aussi, mais qui se passe en Tarn-et-Garonne et qui vient d'être publié par les éditions du Réveil. C'est le livre de Nicole Cassard et de Roland Bringuet qui nous ont concocté un thé brûlant à Montjoie. De quoi s'agit-il ? D'une Anglaise qui invite une charmante jeune femme que certainement, messieurs, vous rêveriez de rencontrer, Bérangère, à boire le thé. Et elle le fait brûlant. Si elle le fait brûlant, c'est bien qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, ça s'avère très rapidement, puisque la pauvre dame est retrouvée assassinée horriblement. Et donc, voilà que la Bérangère va mener l'enquête en même temps que la police, en même temps que d'autres personnes. Et les suspects ne manquent pas. En fait, ce polar pas trop mal construit, et enfin, à mon avis, assez bien construit, puisque je n'avais pas trouvé le coupable avant la fin, et un prétexte à parler de notre département, de ses beautés, de la belle Bastide qu'est Montjoie, de l'évolution de la population dans nos campagnes, c'est-à-dire à la fois un paysanat qui reste traditionnellement le même, à peu de choses près, et puis cette population d'Anglais qui a investi nos campagnes et avec qui le mariage se fait plus ou moins bien. Donc, ce n'est pas une grande œuvre littéraire, mais c'est très agréable et très sympathique. Et j'espère bien qu'ils vont continuer la série. C'est prévu d'ailleurs.
Et là, on retrouve la tradition de l'écriture à quatre mains, puisque on a Narcejac, Franck et Vautrin, et ici, l'auteur, c'est
Nicole Cassard. À qui je pense, par exemple, on doit la recette de la soupe aux fèves. Et Roland Bringuet, à qui je pense on doit les pages concernant le rugby. Mais je peux absolument me tromper, c'est peut-être l'inverse.
Ça s'appelle
Thé brûlant à Montjoie.
Autre coup de cœur, on revient à vous, Jacques Griffaut.
Toujours dans les policiers. Bah
écoutez, on va rester dans les policiers, on va rester même dans la série noire, et on va même rester avec un autre auteur irlandais. On est dans cette série noire, il n'y a plus maintenant, c'est plus les super-héros, hein, c'est des gens qui ont des tas de problèmes, comme peut-être vous et moi. Vous avez vu que le premier, il avait des problèmes de boisson. Eh bien là, on va arriver avec un jeune garçon qui s'appelle Alex Lawson, qui est un brillant inspecteur de police, de la police de Belfast, et qui vient d'en démissionner. Il est, alors qu'il est en train de s'ébattre sur un yacht où il est entré illégalement avec une jeune personne, à 7 fuseaux horaires de là, en plein Colorado, aux États-Unis, son amie d'enfance, qui s'appelle Victoria, est assassinée. Le père de Victoria est absolument pas convaincu, il vit en Irlande, lui, il est absolument pas convaincu que sa fille, au Colorado, a été assassinée par un malfaiteur. Il pense que c'est beaucoup plus important que ça. Et il demande à Alex Lawson d'aller faire une enquête. Donc Alex s'envole aux États-Unis, flanqué de son meilleur ami, qui est lui aussi un flic honoraire, qui est médiocre et qui est un dragueur invétéré. Alex va partir là-bas, il va trouver que Victoria faisait partie d'une association pour la sauvegarde de l'Amérique, une espèce de secte. Il va connaître une liaison brûlante avec la femme du fondateur de cette association, une blonde fort appétissante. Alors on se rend compte, ce qui est très bien fait dans ce livre, c'est qu'on se rend compte tout de suite qu'il tombe dans tous les pièges et toutes les choses trappes qui lui sont tendues. Mais il rebondit. Son enquête progresse et même s'il reste accro à la drogue, alors, et parce qu'il pense que sans drogue, il ne peut pas vivre, est-ce qu'il le conduit aussi à aller dans des quartiers très glauques pour essayer de trouver des gens qui vont lui fournir de la drogue? À la fin du livre, tout de même, il réalise que sa drogue favorite, l'héroïne, il dit l'héroïne prend, elle ne donne jamais. Voilà encore un roman riche, qui est subtil, qui est à la fois une enquête et une quête en même temps de rédemption d'Alex.
Le fleuve caché.
Ça s'appelle Le fleuve caché, c'est d'Adrian McKinty et c'est encore à la série noire.
Et on continue les coups de cœur avec à nouveau vous, Daniel Deloche. C'est un ping-pong aujourd'hui, hein, entre la librairie Deloche et le Scribe.
Eh bien, en tout cas, là, ce ne sera pas un polar dont je vais vous parler. Finalement, les libraires, nous ne sommes pas amateurs que de crimes. C'est l'histoire de Baptiste, qui a un vieil homme qui est en train de finir sa vie en solitaire dans un petit village des Alpes, et d'une petite fille qui est anormale parce qu'elle a été élevée par une mère folle qui l'a maltraitée. Ça va être la rencontre de ces deux personnages qui ont en commun une grande blessure. Le vieillard a perdu sa femme, il est assez asocial, et cette petite fille sauvageonne qu'il va tirer vers l'humanité, à qui il va apprendre à lire et qui va s'en aller sur les chemins de la vie, pendant que lui s'en va sur les chemins de la mort. C'est un livre profond, très sensible, extrêmement bien écrit, par un auteur qui s'appelle Pierre Moustier, et que je vous conseille très fortement. Personnellement, la thématique de ce livre me touche énormément. Je vous conseille donc la lecture de, je vous dis le titre, Baptiste. L'auteur, c'est donc Pierre Moustier, qui ne doit pas être de première jeunesse, et ça doit avoir certainement des échos. Dans ce vieillard doit lui ressembler. Et c'est publié aux éditions De Fallois. Ça sort maintenant, je ne sais même pas s'il est déjà sorti, ça ne saurait tarder sinon, c'est ce mois-ci.
Merci Daniel Deloche, vous écoutez CFM, c'est l'émission mensuelle de l'actualité de l'ALMA, les libraires montalbanais. On revient dans un instant après Kébous.
Lunaire en déficit de perspective, survole les promesses, en cumulant les découvertes. Je mate l'asphalte, tour à tour blatte, tour à tour pape, l'intermittent, le décadent, votre déficit pour vous servir. Golden boy d'occasion, alpiniste en ascension, piédestal contre pied, descente en rappel, au galop, meilleur grimpeur du peloton, un baiser sur le front, des fleurs sur le podium, au galop. S'affole au galop, le cœur s'affole. Interdit lunaire en déficit de perspective, survole les promesses en cumulant les découvertes. Je mate l'asphalte, tour à tour blatte, tour à tour pape. L'intermittent, le décadent, votre déficit pour vous servir. être avant apprendre à saisir. Tout doit disparaître. Ma vie semblable à une queue dans un supermarché. Trop longue, pas pratique et peuplée d'imbéciles. Trop longue, pas pratique et peuplée d'imbéciles. Ma vie au galop. Au galop, le cœur s'affole. Interdit lunaire, en déficit de perspective. Survol des promesses, en cumulant les découvertes. Au galop, le cœur s'affole. Au galop, le cœur résonne. Au galop.
C'était Au galop, sorti de l'album Lupanar de Kebous. CFM, l'actualité de l'Alma avec, c'est l'heure de la lecture, une lecture qui nous est livrée ici par Philippe Bernadou.
Plantons tout d'abord le décor, cela se passe dans une cité abandonnée dont les habitants ont été expulsés, sauf deux personnes, un vieil homme veuf et un homme plus jeune dont on ne sait pas ce qu'est devenue la femme. Il pleut tout le temps. Et le jeune homme passe ses soirées avec le vieil homme à écouter de la musique, un concerto de Schumann. Après un long moment de silence, le vieil homme reprit la parole. « Le piano ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Je vais pouvoir écouter de la musique toute la nuit si ça me chante. Et les voisins, voyez-vous, je les emmerde. Vous ne croyez pas qu'elle aurait aimé que la musique ne s'arrête jamais et qu'après sa mort, ma vie ne soit plus que musique ?» Dans le fond, j'ai de la chance, reprit-il. J'ai la musique et mes souvenirs sont intacts. Schumann, lui, a fini complètement timbré, alors que Clara, sa femme, était enceinte de leur cinquième ou sixième enfant, je ne sais plus. La folie ou les ravages de la syphilis, les spécialistes n'arrivent pas à tomber d'accord, mais cela n'a bien sûr aucune importance. Les symptômes étaient ceux d'un déséquilibre mental évident et il a fini interné. Il ne reconnaissait plus personne. Et pour toute musique, il était harcelé de sonorités affreuses qui ajoutaient à sa démence. Il n'y avait plus de mots, plus de sensations, plus de pensées. Tout en lui et hors de lui était déchaînement sonore, un pur chaos de sons. Et lorsqu'il lui arrivait encore de composer, il entrait dans des états de fureur indescriptible. Il brûlait ses partitions au risque de mettre le feu à toute la baraque, et le médecin le privait de papier, de crayons, de tabac et d'allumettes. Lui qui avait toujours été un grand amateur de tabac, on le privait du dernier plaisir qui lui restait. Et sa fureur, bien naturellement, ne faisait que grandir, et avec elle, cette musique terrible qui le rendait fou. Le goût des abricots secs, de Gilles Pérez, qui va paraître aux éditions du Rouergue dans la collection La Brune.
Merci Philippe Bernadou.
Un livre à conseiller bien sûr aux amateurs de bonne littérature et de musique aussi.
On en arrive maintenant à l'actualité des libraires montalbanais. Par qui on commence? C'est encore Jacques.
Oui, je voulais
vous êtes la vedette aujourd'hui, Jacques.
Non, pas du tout, mais je voulais juste vous signaler que le mardi 15 janvier à 20h au cinéma Le Paris, il y aura la projection du film L'homme qui marche.
Ce soir.
C'est ce soir,
donc en présence de la réalisatrice Aurélia Georges. Alors Aurélia Georges a passé sa jeunesse à Montauban. C'est un film qui est très librement inspiré de la vie d'un auteur qui s'appelle Vladimir Slepian, qui n'a publié qu'un seul texte, Fils de chien, qui est paru en 1974 dans la revue Minuit, aux éditions de Minuit. Et c'est un texte, enfin la revue est épuisée maintenant, mais enfin j'ai des photocopies du texte. Alors à cette occasion, on présente aussi au scribe une sélection d'ouvrages qui ont trait au thème qui parcourt le film, et on présentera aussi ses livres ce soir au Paris, à 20h.
Maurice Beau.
Oui, je refais une petite brève sur les lectures inouïes qui ont eu lieu à l'initiative, à l'invitation de Hugues Dédit,
du comptoir de Sylvie,
en collaboration et accueilli dans les murs du Son de l'innocence. ce fut un moment vraiment troublant, hein, puisqu'on s'était retrouvés pour faire des lectures liées à l'imaginaire. Ça a été un moment d'échange tout à fait intéressant, avec où les chandelles étaient de sortie, puisqu'il y avait une ambiance qui a été recréée. Chacun avait une petite chandelle allumée, et si la lecture ne portait pas ses fruits quant au suspense, chacun avait 5 minutes de lecture devant lui, alors chacun pouvait éteindre sa bougie. Et au miracle, aucune bougie n'a été éteinte dans la soirée. Donc c'est une expérience que Hugues Dedy nous reproposera dans le trimestre à venir, et il ne manquera pas de venir en témoigner et vous inviter aussi à cette lecture. Je rappelle qu'il y a un site, Lecture Inouïe, sur lequel vous avez des conseils pour rejoindre cette aventure, et vous pouvez le trouver sur notre site. L'accès est direct sur notre site librairiemontauban.fr. Voilà.
Le 24 janvier au Scribe, on a une rencontre avec Claudine Galea. Alors Claudine Galea, elle est originaire de Marseille, elle vit maintenant à Paris, mais ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle écrit à la fois pour le théâtre, elle écrit des romans et elle écrit aussi pour la jeunesse. Et donc, ça fait 3 types d'écriture qui seront là. Donc, venez la rencontrer. Elle écrit aux éditions du Rouergue. Mais sa dernière pièce de théâtre, qui s'appelle « Les chants du silence rouge », vient d'être publiée à Espace 34, une maison d'édition que l'on avait rencontrée lors des dernières lettres d'automne qui étaient consacrées à Enzo Corman.
Jeudi 31 janvier, nous recevrons Philippe Ploquin et Françoise Perriot pour un événement tout à fait exceptionnel. Ils vont présenter au public tarnais-garonnais, avant leur départ pour le Maroc, leur dernière réalisation. Ils publient un livre qui s'appelle « Maroc, toile de lumière », qui sera hors le circuit de vente normal, excepté à cette occasion, dont est sorti une 20aine d'exemplaires reliés cuir à des prix de plusieurs milliers d'euros, pour ne pas en dire plus.
Il est bon de rappeler que Philippe Ploquin est photographe.
Voilà, ce sont tous les photographes, éditeurs, puisque c'est eux qui ont publié Le Montauban la secrète, et avant le Tarn-et-Garonne, au fil des saisons, que nous regrettons tous d'avoir perdu dans nos stocks, car il était magnifique, il n'y a pas plus de bel ouvrage sur le Tarn-et-Garonne, mais ils ont également publié beaucoup, beaucoup de livres sur le Maroc. Donc à cette occasion, avant la tournée internationale de cet ouvrage et de l'exposition, ils vont nous présenter ce livre, l'aventure de cette réalisation unique au monde, puisque jamais il n'y a eu des exemplaires fabriqués de cette façon, avec des originaux, etc. 10 livres de cette édition seront donc mis en vente au prix de 150 euros. Si vous avez encore des économies en ce début d'année, c'est le moment de le réserver. Ils auront été pré-signés par le peintre qui s'appelle Serge Pena, qui a été un pinceau d'or, qui est connu dans toutes les galeries du monde, et Claude Crusca, qui est un prof de lettres, qui a fait une identification aux photos et aux reproductions des peintures de ce livre sur le Maroc absolument magnifique, que vous pouvez d'ailleurs découvrir sur le site spécial qui s'appelle tout attaché Maroc toile de lumière .com, si je me souviens bien.
Vous les avez en exclusivité, les 10, Daniel Deloche?
Je ne les ai pas encore. Hein. Je les aurai donc juste au dernier moment, et donc pré-signés par les deux auteurs qui viendront le 26 à Nègrepelisse, là où il y a la maison d'édition, pour une présentation à la presse de cet ouvrage exceptionnel.
Maurice Beau, une autre actu?
Bien. Moi, c'est une actu qui va concerner encore une fois Hugues, mais aussi la place nationale, puisque le comptoir de Sylvie va s'implanter en place nationale. C'est un événement. Il y a 3 librairies maintenant thématiques sur la place nationale. Je crois que ça témoigne de cette volonté de s'adapter aussi et de répondre au mieux, au plus près aux besoins des lecteurs d'une ville.
Voilà, donc prochainement, le comptoir de Cildavie, ce sera place nationale. On arrive au terme de cette émission. Je vais vous demander un rapide tour de table qui récapitule un peu tout ce que vous nous avez présenté aujourd'hui. Jacques Griffon, on commence par vous.
Eh bien donc, 2 livres dans la série noire, Le martyr des Magdalènes de Ken Bruen et Le fleuve caché d'Adrien McKinty.
Daniel Deloche.
Alors moi c'est Pierre Moustier Baptiste aux éditions De Fallois, mise en vente très prochaine, et Nico Alcassar, Roland Bringuet pour Thé brûlant à Montjoie aux éditions du Réveil.
Philippe Bernadeau.
Nous avons parlé du livre de Pierre Adenau sur Jean Malrieu dans la collection Présence de la poésie aux éditions des Vanneaux et du livre de Gilles D. Pérez, Le goût des abricots secs aux éditions du Rouergue.
Maurice Beau.
Moi je l'ai représenté, mais je citerai juste Raymond Devos. Quand dans une réunion, un homme ne dit rien, alors que tout le monde parle, on n'entend plus que lui.
Messieurs, dames, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous dans un mois pour une autre émission sur l'actualité des libraires montalbanais. Au revoir.
Merci à vous.
Au revoir à tous.